Je sais pas vous, mais moi je trouve que ce psaume donne la pêche. Si vous avez un coup de mou spirituel, je vous en recommande la méditation à dose illimitée. Ce psaume 91 décrit la vie ici-bas, vous l'avez entendu, comme un véritable bonheur où paix, sécurité, abondance, protection, longue vie sont le lot du croyant. Tu es mon refuge, ma forteresse, je ne crains rien. En relisant ce psaume, j'ai eu le sentiment que la vie telle qu'elle y était décrite était très comparable à celle du petit enfant. Quand l'enfant vient tout juste de naître, alors oui, il subit le choc de l'ouverture de ses poumons à l'atmosphère, les bruits, les lumières du monde, même si dans les maternités tout cela est bien travaillé quand même. Il n'y a plus la protection du liquide amniotique, ça fait drôle. C'est violent, mais dans l'ensemble, tout va bien. L'enfant reste sur le ventre de sa mère et sur son sein, il est protégé, nourri. Son papa est là et sa maman l'entoure. Tout va bien. C'est ainsi que le psaume 91 nous parle de la foi. Rien ne peut atteindre le fidèle. Rien ne peut lui nuire. La présence de Dieu est un bouclier protecteur, comme les ailes protectrices des parents qui se déploient sur leur petit trésor. Quelquefois jusqu'à l'âge de 25 ans, mais là ça commence à poser des problèmes. On place ensuite le bébé à la crèche pour aller au travail. Et là encore, une armée d'anges se lève pour que tout aille bien. Tout le temps. Les auxiliaires de puériculture, les assistantes, les assistants maternels, l'enfant est accompagné, aimé, chéri, protégé. Il appelle. Quelqu'un accourt. On s'occupe de lui tout de suite. Pour que son pied ne heurte une pierre, on enlève du passage tout ce qui pourrait compromettre les premiers pas de ce tout petit à 11, 12, 15 mois, des fois plus, hein, ça dépend. On met toujours sa main là sur le coin des objets pointus et on camoufle aussi les prises électriques. On lui injecte toute une dose de vaccin pour le protéger des pestes de notre époque. Quand la petite enfance se passe dans cet environnement propice, eh bien, elle connaît une période d'harmonie avec le monde extérieur, une sorte d'âge d'or où les angoisses sont absentes. Toute forme de difficulté trouve une solution immédiate. L'enfant, le petit enfant, vit dans un sentiment de toute puissance avec le monde extérieur. Et j'ai la preuve de ça. Quand il jette son biberon en bas de sa chaise haute, miracle, le biberon revient toujours. Ce qui veut dire que pour lui, les lois de l'apesanteur semblent n'avoir aucune prise sur lui. Et l'homme qui prie dans le psaume 91 vit sa foi un peu comme ça. Dans une sorte d'immersion spirituelle, dans ce sentiment de toute puissance qui est très comparable à ce que le petit enfant expérimente au cours de ses premières années. Le croyant ici se sent intouchable. Rien ne peut l'atteindre. C'est aussi ce qu'écrira l'apôtre Paul dans son épître aux Romains à sa manière, avec des mots qu'on connaît presque tous par cœur. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous sentez la résonance identique à celle du psaume ici. Est-ce le modèle de la foi idéale qui nous est présenté ici? Devons-nous aspirer à cet état de grâce permanent, à cette vision quasi chevaleresque de la vie chrétienne, quand bien même la réalité nous enseignerait le contraire? Nous faudrait-il affirmer que tout va bien quand tout va mal? Nous reviendrons sur cette question que je laisse un peu là. Mais avant cela, je vous invite à aller encore un petit peu plus loin dans la comparaison de la vie de foi avec les stades de l'enfance. Parce qu'après le stade de la toute-puissance, vient le temps des caprices. C'est le douloureux passage à la réalité. C'est le temps de l'apprentissage des limites. Non, les biberons ne remontent pas tout seuls sur les chaises hautes. Oui, maman ou papa a décidé à la quatrième chute que le biberon resterait à terre. Et ça, c'est terrible. Bienvenue dans la vraie vie, mon petit. Deux lois. Un, tout corps persévère dans l'état de repos ou la mouvance uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. C'est Isaac Newton, c'est la loi de la gravité. Deux, une autre loi très proche de celle d'Isaac Newton, c'est celle des parents qui vous résistent, qui vous disent non. Le sentiment de toute puissance s'effiloche comme ça au fil des mois, douloureusement, et les inquiétudes montent, et au même rythme d'ailleurs que les sentiments de frustration, qui sont la conséquence de cette prise de conscience de nos limites. Et puis, douleur suprême, il faut le dire, je réalise, comme bébé, que je ne suis pas le seul être aimé au monde. Mon frère et ma sœur sont également aimés de mes parents. C'est insupportable. Je prends conscience que je ne suis pas tout, donc, que je ne puis pas tout, que je ne possède pas tout, et que les choses sont en réalité plus complexes qu'elles en ont l'air. Et c'est le passage à la fois adulte, où l'on découvre que la peste tue, que les serpents piquent, que les lions déchirent, et qu'il faut composer avec ces réalités. Nous quittons le monde imaginaire de la toute-puissance et nous devenons, bon gré mal gré, citoyens du monde réel. Nous devenons des chrétiens de la vraie vie, celle que le Christ, d'ailleurs, au passage, a vécue avec nous. Et là, nous prenons acte de réalité déroutante, douloureuse. Nous prenons acte, par exemple, que Dieu ne répond pas à toutes mes prières, qu'il ne semble pas intervenir suffisamment en faveur de l'Église persécutée, en faveur d'amis malades, d'enfants ou de femmes victimes de violences familiales. Alors, comment entendre aujourd'hui ce verset 10 ? Il ne t'arrivera pas de malheur, aucun coup ne menacera ta tente. Alors que Tant et tant de familles réfugiées se massent sous des tentes de fortune au Liban ou aux frontières de l'Europe, exposées au froid, à la faim, à l'angoisse. Il serait indécent de nier que le malheur frappe aussi la tente des innocents. Oui, les flèches atteignent leur cible. Oui, les paroles blessent. Pire, nous autres chrétiens sommes atteints par des malheurs qui n'atteignent ni les 1 000 à gauche, ni les 10 000 à droite. Oui, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Notre vie ressemble certains jours à un psaume 91 à l'envers. Et Jésus en a fait lui-même la rude expérience. Alors qu'il est conduit au désert pour y être tenté, le diable le fait monter sur le haut du temple, qui ressemble étrangement à une chaise haute pour bébé. Et lui cite un psaume de la Bible, notre psaume, le 91, les versets 11 et 12. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répondra au tentateur par cette parole du Deutéronome. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il est clair ici que Jésus n'a pas eu une compréhension littérale du psaume 91. Celle précisément que le diable lui suggère de faire. Sinon Jésus se serait jeté du haut du temple pour épater le diable. Voilà le fruit d'une lecture littéraliste. En prenant lui-même de la hauteur, Jésus nous invite à comprendre que ce psaume 91 n'est pas un gage d'immunité contre les épreuves et les malheurs de la vie. Ils s'abattent indifféremment sur le juste et sur l'injuste. Avez-vous remarqué à la lecture du psaume, c'était un peu dérangeant, que plusieurs personnages semblent s'exprimer tour à tour. Il y a une diapo, s'il vous plaît. Trois personnages, oui. Premièrement, il y a l'homme qui prie, c'est lui qui dit « je hein. ».« Je dis au Seigneur, c'est toi mon refuge ». Puis il y a un deuxième personnage qui est peut-être le prêtre. En tout cas, c'est sans doute une référence sur le plan de la connaissance des Écritures, prêtre qui enseigne, et puis il y a un troisième personnage dans ce psaume qui s'exprime aussi, c'est Dieu, Dieu qui bénit. Et c'est un peu déroutant pour la lecture parce que les personnages ne s'annoncent pas, hein. Ils parlent, comme dans une conversation en direct. Et cette triple présence-là, du prieur, du prêtre, on va l'appeler comme ça, c'est pas dit, mais c'est probablement lui, et de Dieu, nous alerte sur la nécessité de ne pas rester seul dans notre lecture, dans notre relation avec Dieu. La vérité ne s'approche que dans le croisement des regards, l'écoute communautaire de la Bible, le questionnement mutuel, mais pas dans les certitudes solitaires. L'enfant a besoin de ses parents, il a besoin de ses instituteurs, ses profs, de ses amis, du voisin qui est sage et amical, pour grandir et naître à une vie de femme, d'homme responsable, libre. Le chrétien est comme l'enfant, il a besoin de l'Église. Il a besoin de son pasteur. Allez, je le lâche. Il a besoin du service biblique, de la prière communautaire. Il ne peut pas rester seul comme ça. Seul avec sa Bible, on a toujours raison. mais l'on risque finalement d'en rester au stade de l'enfance spirituelle. Alors que faire de ce psaume 91, frères et sœurs ? Comment le prier quand on est parvenu au stade adulte de la foi et que nous savons que les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraît ? Eh bien, ma réponse sera toute simple. Je pense que nous pouvons accueillir joyeusement l'enseignement du prêtre à nous replonger dans ce sentiment de parfaite harmonie, de bien-être total. Ce lieu intérieur où tout va bien, où Dieu tient solidement le gouvernail de nos existences. Oui, nous pouvons plonger dans cette réalité. Elle fait du bien, on a tous besoin de cet idéal de la vie, de ce temps béni où nous étions des rois et des reines. Oui, nous avons besoin de ça. Vivons-le sans culpabilité. C'est un petit peu régressif, diraient les psychologues. Oui, mais nous avons besoin de moments pareils. Nous ne pouvons pas toujours être au front et au top et sur tous les combats. L'Église, pour certains, pour vous peut-être, et je m'en réjouis, joue le rôle d'une arche où on se sent à l'abri, la maison de l'Éternel, l'abri où l'on se fait du bien, l'espace d'un culte. Pour d'autres, ce sera plutôt le moment du culte personnel, où l'on se sentira libre de parler à notre Dieu comme un petit enfant capricieux. Mais c'est très bien. Et des moments comme cela sont indispensables. Nous avons besoin de souffler un peu, de réapprendre à croire, même contre ce que nous voyons, hein, à croire que tout est entre les mains de Dieu et que l'histoire s'achemine vers le meilleur. Nous avons besoin de nous laisser recouvrir de temps en temps par ces ailes protectrices, ce plumage douillet. Le tout, c'est très important aussi, c'est de ne pas confondre ces moments de plénitude exceptionnelle avec la vie ordinaire. Car alors, nous céderions à la tentation de nous croire invulnérables, inaccessibles au mal, et finalement réduits à vivre notre vie spirituelle dans un monde parallèle, un monde imaginaire, où nous serions des héros imaginaires, adorateur d'un Dieu imaginaire. La foi chrétienne n'évite pas les problèmes, elle n'évite pas les accidents, elle n'évite pas la mort. Un pasteur l'écrivait très justement. Cette formule m'a plu. Dieu ne protège pas l'homme de la foudre, mais il protège le foudroyé. Vous sentez la nuance ? Et c'est exactement ce que dit le verset 15 de notre psaume. Je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse. C'est sur cette parole que nous sommes appelés à nous construire comme chrétiens adultes. Sœurs et frères, nous voyageons en permanence entre deux âges. L'enfant qui sommeille en nous, d'un sommeil léger, qui a toujours ses besoins de sécurité, de certitude, et l'adulte qui est aux commandes, cherchant à garder le cap d'une vie responsable. Mais qu'est-ce que c'est difficile ? Le tout est de parvenir à un équilibre. Chacun saura comment se débrouiller. Ne renions pas l'enfant et ne fuyons pas la vie d'adulte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous avait prévenus, il l'avait bien compris. Il nous dit, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. Hébreux 5. Le psaume 91 représente une sorte de refuge pour nous qui traversons un moment de fatigue. Oui. Dieu nous y offre repos et protection Saisissons cela, sans retenue. Mais il va falloir repartir dans la vraie vie, frères et sœurs, et Dieu nous y attend déjà. Amen.